Vous publiez Jean-Marie Leclésio, donc Le rêve mexicain, qui est un livre plein de la magie et de l'or, et je dirais même et du sang aussi, d'une civilisation disparue, les Aztèques. Pourquoi cette fascination d'ailleurs pour cette civilisation?
Je crois que j'ai été tenté par le Mexique quand j'avais 9 ou 10 ans, parce qu'on m'avait offert un livre d'une collection qui a disparu depuis, je crois que ça s'appelait Les trésors de la terre, ou je ne sais, des choses de ce genre.
Ah oui?
Et c'était un livre sur les Aztèques. Et j'ai été frappé tout de suite par les formes des créations artistiques de ce peuple.
Oui.
Les pyramides, les monuments, les masques. Enfin, il y avait quelque chose de très frappant dans cette représentation qui était très schématique et pourtant très, très forte et très violente parfois. Et j'ai le souvenir d'avoir été vraiment impressionné par les dessins et les photos de ce livre. Ensuite, d'avoir lu le commentaire, qui était un petit peu fantaisiste d'ailleurs, puisqu'il expliquait la civilisation aztèque comme une civilisation qui avait été formée par les fourmis.
Par les fourmis?
Par les fourmis, oui. Je me souviens de ça. Je n'arrive pas à réaliser comment c'était possible. J'ai perdu le livre depuis. Mais il expliquait très, très sérieusement que ce qui depuis s'est révélé être un anneau dans le nez des statues, il l'expliquait comme étant une goutte de nourriture dans la mâchoire des fourmis. Les fourmis transportent une goutte de nourriture jusqu'à leur fourmilière. Et je me souviens de ce rapport donc des Aztèques et des fourmis.
Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est cette civilisation brève et sublime qui a exalté l'art, la danse, la religion, la poésie. Je crois que les Aztèques appelaient la poésie la parole fleurie, le chant aussi. Mais c'est aussi une civilisation très cruelle qui a exalté la guerre, l'a élevée à la hauteur d'une institution et l'a enseignée aux enfants, et qui pratiquait le sacrifice humain, et puis d'autres rituels très fanatiques, et puis qui a divisé la société en castes très rigides.
Oui, oui. Moi, c'est une société avec ses défauts et ses qualités. Pour ce qui concerne la guerre, je crois que les Aztèques ont été beaucoup moins cruels que beaucoup de nations qui les ont suivies. Les guerres que faisaient les Aztèques étaient rien du tout à côté de ce qui a suivi. En tout cas, n'étaient pas grand-chose en comparaison du traitement que les Espagnols ont fait subir aux Aztèques eux-mêmes.
Donc, oui.
Si on peut comparer ces choses-là. Mais c'était en effet une société contradictoire, et c'est peut-être ça, au fond, qui éveillait aussi ma curiosité. C'est qu'il y avait, c'était une société avec des excès de forme, des excès de passion, et des excès même... c'est vrai, dans la cruauté, et qui traduisait au fond, pour moi, quand j'étais enfant, et puis de plus en plus au fur et à mesure que je découvrais donc l'histoire du monde, qui traduisait une sorte de, je dirais pas d'harmonie, parce que ça paraît difficile de parler d'harmonie en réunissant des sentiments aussi contraires, mais de plénitude, l'être humain dans sa plénitude. C'est-à-dire que c'était des sociétés qui ne cachaient pas la cruauté. Elles la montraient au grand jour. Cette cruauté était, qui est essentielle, qui est, je dirais, inhérente à tout fonctionnement social. Elle était sublimée dans des sacrifices, dans des danses. Elle avait un côté théâtral. Je pense que c'est ce qui avait plu à Artaud, certainement, au Mexique. Et alors, cette société semblait avoir trouvé un équilibre entre ce qui était cruel et ce qui était admirable, entre ce qui était doux et ce qui était âcre et fort.
Oui.
Et j'imaginais donc que c'était une société idéale, puisqu'elle avait pu concilier des sentiments, des pulsions aussi différentes, et que tout cela lui permettait au fond de régner sur un certain équilibre. Et en plus de ça, c'était une société au fond qui, en disparaissant, avait acquis pour moi un caractère fabuleux.
Oui.
Le fait même de sa disparition, je crois, ajouter
brutal
à...
Et...
Sa disparition brutale, oui, vous avez dit éphémère, mais c'est parce qu'on lui a coupé la tête.
Oui.
C'était une société qui était en pleine croissance et tout à fait florissante, qui était en train d'inventer quelque chose,
oui,
qui avait certainement ce côté excessif et presque baroque qu'on peut attribuer aux sociétés orientales à l'époque assyrienne. Il y avait quelque chose de très primitif, c'est vrai, dans un certain sens, mais aussi de très raffiné, de très élaboré. Et cette société qui ne peut pas ne pas faire rêver. On rêve de, d'empire comme ça, on rêve de l'empire assyrien, d'Uruk ou même de l'Égypte, brutalement a disparu et elle devient miraculeuse, elle devient une sorte de merveille disparue.
C'est le Mais fait. Là, il y a un paradoxe tout de même, Jean-Marie de Clésio, je songe au mot de Valérie, là. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. D'ailleurs, vous l'écrivez vous-même, hein, les Mayas, les Toltecs, les Tarasques, les Aztèques l'ont su aussi. Ils ont eu en commun de vivre dans l'attente, écrivez-vous, et même dans la prémonition d'une catastrophe.
C'est ce qui, au fond, ça a favorisé leur destruction, mais ça leur a permis, au fond, de survivre. Ça a permis à cette société de laisser quelque chose, de laisser une trace. C'est parce qu'ayant tout prévu, ils avaient prévu également, ces sociétés avaient prévu leur disparition et avaient pris des mesures pour qu'on les voie.
Oui.
Après, elles avaient laissé des traces. Je pense aux Mayas, par exemple, qui, à chaque changement de siècle, c'est-à-dire tous les 20 ans, dresser une stèle de façon à ce que l'on sache qu'ils avaient vécu. S'ils n'avaient pas dressé ces stèles, on n'aurait pas su. Et ces stèles ne sont adressées à personne d'autre qu'à d'hypothétiques survivants. Parce que ces stèles ne sont que des dates. Imaginez, vous savez, on voit quelquefois sur les ponts de Paris d'ailleurs, un tel est passé ici en 1958. En dehors des graffitis grossiers, il y a des gens dont le souci est de laisser la trace de leur passage. Eh bien, ces sociétés-là, ayant prévu leur fin, laissaient des traces pour qu'on sache qu'ils étaient passés. Et il y a quelque chose, je trouve, de fabuleux à imaginer des sociétés dont tout le savoir, c'est-à-dire savoir astronomique, le calcul mathématique, est conçu pour laisser une trace pour d'éventuels survivants. Supposez que actuellement, toute l'activité humaine en Europe, dans le monde occidental, consiste à laisser des traces en disant on va faire l'inventaire de ce que nous avons laissé. Et surtout, on va dire en 1988, nous étions ici, à Paris. Et voilà. Et ça serait étonnant. Personne n'y pense. La société occidentale ignore complètement, contrairement à Valérie, ignore qu'elle est mortelle. Elle ne veut pas penser à sa mort.
Ouais.
Elle a peur de sa mort. Et elle risque de disparaître justement à cause de ça, sans laisser la moindre trace. Elle ne laissera que des traces incompréhensibles, puisqu'elle n'aura pas prévu de laisser ses témoignages, ses dates. Ce qu'elle laissera sera indéchiffrable.
Et un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui a dans le souci de laisser des traces, de laisser une trace, non ?
Il me semble que c'est l'impression que j'ai, l'écrivain suit un petit peu un chemin circulaire. Il est un peu sur cette roue qui tourne et quand il se dirige vers sa fin, il se dirige vers la fin de ce qu'il est en train de faire, il doit nécessairement retrouver ce qu'il commençait à faire de façon à ce que ça forme une sorte de tout cohérent, enfin qu'il puisse lui-même se sentir comme un être cohérent. Et il y a des écrivains d'ailleurs qui arrivent plutôt que d'autres à fermer la boucle et justement ils la bouclent à ce moment-là.
Vous avez l'intention de la boucler un jour ?
Peut-être, oui, je ne sais pas. C'est pas encore. Je n'ai pas l'impression d'être parvenu à ce point-là. Mais si j'avais cette impression, qui doit être d'ailleurs très angoissante et désespérante. Je pense à Rulfo, par exemple, qui a bouclé son œuvre en deux livres. Et il y a d'autres écrivains. Il y a un écrivain juif américain, il s'appelle Henry Ross, qui a écrit un seul livre dans sa vie. Il a bouclé sa boucle en un livre. C'est extraordinaire. C'est très impressionnant et émouvant pour les autres, mais pour lui-même, c'est une très dure épreuve. Ça a dû être très difficile.
Est-ce qu'on ne boucle pas aussi parfois la ceinture de quelqu'un d'autre ? Par exemple, je reviens au Mexique. Vous avez cité tout à l'heure Antonin Artaud, qui a fait un voyage au Mexique qui est devenu mythique lui-même dans la littérature un peu. Et vous lui consacrez un chapitre dans Le rêve mexicain. Alors je sais bien, vous parlez d'Artaud, vous parlez de l'année 36, vous parlez du désespoir d'Artaud qui le fait fuir l'Europe et aller au Mexique. Et je sais bien que c'est un essai, mais je me suis demandé si c'était pas un peu vous.
Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que quand on parle de quelqu'un comme Artaud, on est devant quelqu'un de tellement intense et de tellement fort que on n'est jamais à la hauteur d'Artaud. Même en aimant ce qu'il écrit, on n'est pas sûr de comprendre tout ce qu'il dit. Mmh. C'est donc une interprétation. Mais enfin, c'est vrai que, comme disait Breton, Artaud a été vraiment un emblème. Mmh. C'est quelqu'un qui a ouvert la voie et qui a révélé des domaines qui aujourd'hui semblent aller d'eux-mêmes et qui étaient tout à fait nouveaux. C'est quelqu'un qui a montré que, enfin, qui a donné l'exemple d'un surréalisme au-delà de toute chapelle, de toute école. Oui. C'est quelqu'un qui a montré que le Mexique n'était pas une terre de folklore ou n'était pas une terre misérable, mais que c'était au contraire un lieu de haute culture. Mmh. En 1936, c'était tout à fait étonnant d'entendre ça, puisqu'on ignorait complètement les cultures amérindiennes, elles étaient complètement délaissées.
Est-ce que vos motivations à vous, Jean-Marie Le Clézio, ne ressemblent pas forcément à celles d'Artaud, fuyant l'Europe
Non, il ne fuyait pas les mêmes choses que moi.
Ah oui, non, mais ça c'est évident. Oui. Vous n'avez pas eu d'aventure avec le surréalisme, pas d'exclusion d'aucun groupe. Mais non. Peut-être... une certaine vision, je ne sais pas, du fractionnement de la culture européenne. J'essaie d'éviter de poser le plus tard possible le mot décadence.
Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas s'identifier à Artaud quand on vient d'Europe et qu'on va au Mexique, parce que, du moins si on y cherche quelque chose, parce que ce qu'on cherche, c'est le contraire de ce qu'on a trouvé en Europe,
oui.
C'est-à-dire quelque chose de plus brûlant, de plus fort. Tout à l'heure, quand on parlait des Aztèques, au fond, c'était ça que je voulais dire, c'est que cette civilisation aztèque, ce que j'entrevoyais dans la civilisation aztèque, c'était un monde beaucoup plus fort et beaucoup plus passionné que le monde de la Renaissance européenne. Un monde qui n'était pas fondé sur la raison, qui n'était pas fondé sur les grandes idées humanistes sans cesse contredites, mais sur d'autres choses, qui étaient fondées sur justement cette danse, cet élan vers la magie,
surnaturel.
Sur le surnaturel, c'est-à-dire sur une perception différente et une perception plus intuitive du monde.
Oui.
Et c'est ce qu'Artaud va chercher au Mexique. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait trouvé parce que le Mexique ne donne pas des solutions comme ça très facilement.
Oui.
Mais c'est certainement cela que tout le monde, après Artaud, a pu rechercher au Mexique. C'est certainement cela qui fait qu'on peut s'identifier à Artaud. Et dans mon cas, oui, c'est vrai.
J'imagine que la raison de vos fréquents séjours au Mexique, c'est qu'il existe des traces, une présence quand même de cette civilisation dissolue, oubliée.
Ah oui, quand je suis arrivé au Mexique, le premier texte que j'ai lu, c'est les Tarahumara d'Artaud. Ça a été vraiment la première chose que je lisais sur le Mexique, en dehors de livres dont je vous avais parlé, qui était fantaisiste. Mais le premier texte qui m'a frappé, qui m'a ému, c'était celui-là. Et à partir de ce texte d'Artaud, j'ai eu envie de savoir ce qu'était le Mexique et j'ai lu les chroniqueurs, j'ai lu tous ceux qui avaient été témoins, comme Artaud avait pu l'être dans la Sierra Tarahumara, qui avaient été témoins de ce qu'était ce monde au moment où les Espagnols sont arrivés, au moment où
Diaz de Castillo, par exemple.
Oui, Bernal Diaz de Castillo, un soldat, un culte qui accompagne Cortés et qui est submergé par les émotions.
Oui.
Il écrit son livre, L'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, il l'entreprend à 84 ans. C'est inimaginable. Il est aveugle et sourd à ce moment-là. Il est complètement coupé du monde et il essaye de revoir ce qu'était cet univers dans lequel il est entré et qui a basculé, qui a été détruit par les soldats espagnols.
Il est aveugle, sourd, inculte et il écrit ce livre.
Il écrit ce livre, oui.
À 84 ans. Il ne faut désespérer de rien.
oui, c'est là le sens, sûrement. En tout cas, ça donne à son livre, à son témoignage, cette dimension un peu déraisonnable et brûlante qu'on attend du Mexique.
Une des raisons, mais une des raisons soumises, tout de même. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur sur la soumission aveugle, totale, des Aztèques au divin.
Oui. Soumission, c'est un mot qui a l'air négatif, parce qu'on... On a l'impression de voir des gens prosternés. Mais c'était quelque chose de différent, je pense. Pas seulement chez les Aztèques, mais chez les Indiens du Michoacán, les Purépecha, chez ceux du Nayarit, chez les Mayas, enfin toutes les cultures amérindiennes du Mexique. C'est des cultures qui concevaient la religion comme quelque chose d'à la fois individuel, comme une force à la fois individuelle. Chacun était maître d'honorer les dieux à sa façon,
oui.
et même de les choisir. Chacun, c'est pour la raison un peu du polythéisme, c'est qu'il y a quasiment autant de dieux que d'êtres humains. Chacun s'invente, au fond, sa divinité, et donc peut pratiquer le culte comme il entend. Et d'autre part, chacun doit participer à cette sorte de cohésion qui fait que la nation aztèque ou la nation maya existe. C'est-à-dire que c'est un devoir un petit peu civique. C'est une notion assez forte, finalement, de la responsabilité collective et du sens de l'individualité.
Oui.
Je crois qu'ils avaient inventé cet équilibre que les religions révélées, comme la religion chrétienne, n'avaient pas réussi à obtenir. Donc il y avait un clergé, mais je pense qu'il n'y avait aucune astreinte, et soumission a l'air un mot un peu fort.
Oui, d'ailleurs, vous prenez soin d'indiquer tout de même que l'obéissance aux lois, pourtant, par exemple, n'était pas un esclavage.
Non, je pense en effet que
c'était... Ça vous séparez peut-être de certains historiens sur ce...
Oui, oui certainement.
Hein, sur cette interprétation.
Oui, puisque le portrait de la société aztèque, en général, est le portrait d'une société dirigée par des tyrans, qui exercent le pouvoir de la guerre. C'est un peu comme les seigneurs de la guerre en Chine, avec en plus le côté horrible des sacrifices. Mais je crois que c'est une vision caricaturale. Cette société était en pleine progression. Elle regroupait des ethnies assez différentes. Elle s'étendait sur un domaine infiniment grand, ce qui est à l'époque, ce qui représentait la superficie de l'Europe. Et je crois que cet équilibre n'aurait pas pu durer plus d'une génération s'il était fondé sur la tyrannie. Or, il durait déjà depuis 300 ans quand les Espagnols sont arrivés.
Et vous dites que c'était le bonheur d'un âge magique.
Oui, oui. C'est bonheur de l'âge magique par rapport à la destruction qui a suivi l'introduction de la technologie et surtout de l'exploitation coloniale.
Mais que retrouvez-vous aujourd'hui au Mexique de ce bonheur et de cette magie ?
Des traces.
Par exemple ?
Eh bien, une certaine façon de vivre, je dirais, individualiste, un certain recul par rapport à la réalité. Je crois que quand on vit au Mexique, à la campagne en particulier, on s'aperçoit que les gens ont un certain scepticisme vis-à-vis de tout ce qui paraît utile ou de tout ce qui paraît indispensable. C'est-à-dire le profit, par exemple, même, je dirais, d'une certaine façon, le travail... Le travail organisé, le travail qui est en vue d'un rendement. Il y a un certain scepticisme, un certain recul. Je crois que c'est une erreur d'ailleurs d'attribuer le sous-développement et la pauvreté du Mexique à cette attitude. Je crois que la pauvreté vient de plus loin, elle vient du choc colonial, c'est-à-dire de la mauvaise répartition des richesses. Mais il y a un certain...
Elle n'est pas inscrite, selon vous, dans le destin de cette civilisation ?
Non, absolument pas. Le Mexique, à l'arrivée des Espagnols, est un pays, je ne dirais pas prospère, mais enfin, qui n'est pas moins prospère que l'Europe, qui a les mêmes problèmes de disette et de sécheresse que l'Europe, mais ce n'est pas plus grave que l'Europe. Elle est au même niveau économique. La différence, c'est une différence technique. Et il y a une technique plus archaïque au Mexique. Mais je crois que ce qui lie le Mexique ancien, enfin ce Mexique magique au Mexique moderne, c'est cette possibilité de s'abstraire de la vie réelle.
Oui, oui.
C'est-à-dire de ne pas considérer que la vie réelle est ce qu'il y a de plus important. De considérer par exemple que les arbres ont une âme.
Ah oui.
On fait une plantation de maïs, mais s'il y a un très bel arbre au milieu, on fait le tour de l'arbre. Bien que ce soit gênant, on laisse l'arbre où il est. Parce que c'est plus important au fond que l'arbre soit là, que de gagner quelques arpents de maïs de plus.
À propos, c'est vrai que les cultures amérindiennes se nourrissent de rêves, cultivent le songe, et même le pratiquent pour des exercices de divination. Même.
Oui, c'est resté très fort, cette part de rêve est restée très forte, et ça aussi c'est un...
Aussi bien chez les Incas que chez les Aztèques.
Oui, oui, je crois que toutes les sociétés amérindiennes, en effet, sont marquées par... cette possibilité d'avoir recours au rêve, de ne pas considérer le réel comme la solution définitive à tous les problèmes.
Vous aussi, Jean-Marie Leclézot, vous êtes quelqu'un qui a recours au rêve.
Oui, c'est vrai. Je crois d'ailleurs que les écrivains, on parlait toujours, on revient toujours à cet enfant dans sa cabine, au milieu d'un voyage qu'il ne voit pas. Je crois que quand on écrit, on a pour une bonne part des réminiscences de rêve.
Mais pour que le rêve soit vienne, soit complet, riche, harmonieux, sublime, il faut un média. Le média des Aztèques, c'était certaines drogues
Oui,
hallucinogènes.
mais oui, je crois qu'il ne faut pas le
Vous avez...
forcer quand même dans le cas des écrivains, parce qu'il me semble que ce qui est de plus agréable dans le rêve, c'est le rêve inutile.
Oui.
C'est le rêve qu'on fait pour rien. Ce qui est bien, c'est de rêver à 6 h du matin qu'on a écrit le plus beau roman du monde et de se rendormir et de l'oublier. C'est formidable de l'oublier par la suite. Et je crois que, au fond, pour moi, l'idéal de l'écriture, c'est d'arriver à rejoindre ça. C'est un peu contradictoire, au fond, tout ça. Mais écrire sans savoir où on va, au fond. Écrire en laissant les choses se faire un peu d'elles-mêmes. D'ailleurs, écrire sans avoir aucun plan, même un essai, et écrire en jetant des phrases et en les regardant s'ajouter, et ensuite même en regardant la page et en voyant tous ces blancs que ça a laissés. Parce qu'une page écrite, c'est plein de blancs, c'est assez curieux. Et ça, c'est bien. C'est laisser dériver là, au fil.
Et pourtant, je me rappelle que vous avez répondu un jour à la fameuse, célébrissime question « Pourquoi écrivez-vous » empruntée à la fameuse enquête de la revue Littérature au temps d'André Breton. Vous avez répondu « J'écris pour agir ». Et vous aviez même mis « agir » en lettres capitales.
Ah oui. Mais agir, ça ne veut pas dire forcément savoir ce qu'on fait. On peut. Si rêver, c'est être apathique, oui, en effet, ça s'oppose, mais on peut agir en se laissant dériver aussi. Parce qu'au fond, les activités cérébrales sont réparties curieusement. Je pense qu'il doit y avoir un très faible pourcentage. Je ne vais pas vous donner le pourcentage exact. Mais d'ailleurs, un très faible pourcentage d'activités cérébrales qui sont conscientes, qui sont utiles même. Je veux dire, là, on retourne peut-être même à la conception du monde mexicain.
Oui.
C'est-à-dire que de toutes les activités humaines, peut-être que 12% sont vraiment conscientes et que tout le reste, c'est pour rien. Ce sont des essais, ce sont des tentatives qui avortent et qui ne donnent rien. Ce sont des impasses dans lesquelles on arrive, ou ce sont surtout des gestes pour rien. Même les animaux, si vous les regardez, ils ont l'air bien adaptés au règne terrestre, mais ils font beaucoup de gestes inutiles. J'ai même vu des chats tomber avec des gestes maladroits. On
Ah
voit
oui.
des choses très, très étranges.
Mais pas les fourmis, peut-être. Si, les fourmis
Je crois que les
ont une
fourmis, de
certaine
temps en temps, doivent
fantaisie.
se tromper, aller dans le sens inverse de la fourmilière.
Ah oui.
On en voit des fourmis perdues. Je crois que, au fond, un écrivain, c'est quelqu'un qui a le luxe, la chance ou parfois le désespoir de noter tous ses gestes inutiles et toutes ses pensées inutiles,
Oui.
en plus des autres.
Oui. En plus des autres, oui.
Et puis peut-être d'arriver à en faire quelque chose qui tienne debout.
La pensée, c'est encore quelque chose en quoi vous croyez aujourd'hui?
Oui, mais comment ne croirais-je pas dans la pensée? La pensée du penseur qui se prend la tête, c'est quelque chose. Mais enfin, je ne sais pas, allumer une cigarette, d'une certaine façon, c'est une expression de la pensée. On exprime. D'ailleurs, Sartre a écrit des choses très bien sur la cigarette.
Oui.
C'est tout ce qui est en vue d'une appropriation ou en vue d'un. Tous ces gestes-là sont des gestes de pensée et l'être humain est rarement dépourvu de pensée. Maintenant, s'il s'agit d'une pensée cohérente, effectivement, il faudrait faire la part de ce qui est utile et du monceau de choses qui sont inutiles. Regardez dans le langage tous les struments, tous ces petits, ces particules, tous les e, toutes ces hésitations qu'on ajoute pour arriver à exprimer quelque chose. On a l'impression que l'ordinateur, à côté de ça, est plus efficace avec son rythme binaire, un vrai faux, enfin un ou deux. Ou 1 et 0, je ne sais plus, 1 et 0, je crois.
Vous êtes-vous rendu compte, Jean-Marie Le Clézio, que je vous ai posé à 3 ou 4 reprises la même question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu?
Ouais, dites-moi encore, hein. Je ne me suis pas rendu
Sous des
compte.
formes diverses, détournées.
Ouais.
Pourquoi fuyez-vous la France 6 mois par an?
Ah, mais je ne fuis pas du tout la France. Ça, c'est justement, c'est pour ça que j'ai entendu ce mot plusieurs fois.
C'est vous-même qui l'écrivez souvent. C'est un
oui,
de vos mots
oui,
préférés,
le livre des
fuite.
fuites, mais ce n'était pas conçu dans le sens d'une fuite pour échapper à quelque chose. Ce n'est pas conçu du tout comme ça.
Pas même à l'origine?
Non, non, non. Non, non. C'est pour ça qu'au fond, je n'ai pas répondu, parce que je crois que aller au Mexique, pour moi, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas, et c'est en cela que je ne pouvais pas m'identifier à Artaud. Je ne fuis rien de précis. Je ne suis pas poursuivi par les surréalistes. Et je ne fuis rien de particulier. Je ne suis pas un déserteur, je n'ai
Pourtant,
rien. Mais
oui.
j'ai le sentiment que quelque chose, au contraire, m'appelle. Enfin, que j'ai besoin de
Oui, alors
voir quelque
voyons-le
chose.
du côté du terme plutôt que du côté
Oui.
de la du
C'est
départ,
un peu
mais
que, oh, je vais vous dire que vous allez me dire que je parle trop d'avion, mais c'est un peu comme
Non, jamais, jamais trop.
la différence sensible qu'il y a entre le savoir que l'avion glisse sur la partie supérieure de l'aile et pas sur la partie inférieure.
Oui.
Je crois que c'est quelque chose comme ça, parce que c'est important de savoir que bon, dans le cas de l'avion, c'est important de savoir qu'il ne plane pas comme un oiseau, qu'il ne repose pas sur ses
Voilà,
ailes,
et
mais
aspirer.
qu'il est au contraire aspiré, qu'il force son passage vers le haut.
Oui.
Et je crois que dans le cas du voyage, enfin tel que je le conçois, ce voyage qui me fait aller vers un pays différent de la France, ce n'est pas parce que je quitte la France, mais c'est parce que je me sens aspiré vers le Mexique. C'est quelque chose d'autre. Je ne suis pas porteur des vieux parapets, mais je suis plutôt aspiré par les paysages du Nouveau Monde.
Oui. Justement, à propos des paysages, je reviens un petit peu à cette évolution dont on a déjà parlé dans l'entretien. Vous, l'écrivain des villes, de l'électricité, des automobiles, du béton et du fer, et qui est devenu celui du désert, de la transparence, du silence. Il faudra qu'on parle du silence d'ailleurs, parce que c'est très important, même à propos des Indiens, ce grand silence qui a suivi la catastrophe de leur disparition, les Aztèques. J'ai fait une petite collection là des lieux leucésiens. Et au fond, ce qui vient, c'est la plage, le littoral, le désert, la terre en friche, le terrain vague, les arbres, la lumière, la mer. Alors bon, ne parlons pas de désertion, mais il y a quand même ce lieu-là.
Oui, c'est que dans les villes, au fond, je me rends compte que ce qui m'attirait, c'était les terrains vagues. C'est-à-dire, c'est tout ce qui était en marge de l'urbanisation. Ce qui semblait être oublié par l'urbanisation, ou au contraire, qui avait été repoussé par l'urbanisation. J'ai été, par exemple, là, en arrivant à Paris, j'ai été étonné et en même temps émerveillé de voir que
Vous avez
jusqu'aux
trouvé
portes
des
de
terrains,
Paris, il y a
oui.
des champs de maïs.
Ah oui.
C'est vrai, c'est
Oui.
rempli de champs de maïs du côté de Roissy.
Oui.
Quand vous arrivez, vous suivez l'autoroute et de chaque côté des champs de maïs. Et les champs de maïs arrivent jusqu'à ce qu'était l'ancienne zone. Je ne sais pas si c'est un programme, hein. Je ne sais pas si ça a été déterminé.